Dans cette troisième saison, Laura Bisnaillon, membre du CREFO, et ses invités discuteront du thème de la production et de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans ces divers contextes du monde.
Dans cet épisode, elle rencontre Angelica Pessarini, professeure adjointe à l'Université de Toronto.
L'Italie est aussi noire, est aussi métisse, est aussi racialisée. Il y a des Italies, il n'y a pas en Italie, il y a des Italies qui vivent ensemble.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Alors, un bon bonjour aux auditeurs et aux auditrices du podcast Quoi de neuf, les caféistes du CREFO. Je suis l'animatrice Laura Bisnaillon et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Angelica Pessarini. Madame Pessarini est sociologue et professeure adjointe à l'Université de Toronto. Elle mène des recherches sur le colonialisme, le genre et la production des connaissances racialisée du discours politique sur l'immigration, en particulier dans le contexte italien. Elle est diplômée d'un doctorat interdisciplinaire de l'Université de Leeds en Grande-Bretagne pour sa thèse qui portait sur les appartenances identitaires des femmes noires métisses en Italie coloniale et postcoloniale. Elle a participé à l'ouvrage collectif intitulé « The Black Mediterranean, Bodies, Borders and Citizenship » La Méditerranée noire, corps, frontières et citoyenneté, publié chez les éditions Palgrave Macmillan à Londres en 2021, en anglais. Ce livre-là repense la soi-disant crise migratoire européenne à travers le prisme du concept de la Méditerranée noire. Elle est aussi traductrice. Elle a co-traduit, de l'anglais à l'italien, le livre « The Undercommons », Fugitive Planning and Black Study, publié chez les éditions Archive Books en 2020, et le livre Blues Legacies and Black Feminism, qui est sous presse et apparaître cette année. Alors, sois la bienvenue, la professoresse Pessarini, aux ondes de Quoi de neuf, les cafés du CREFO.
Merci beaucoup.
Alors, tu es polyglotte, tu parles plusieurs langues, tu parles l'anglais, l'italien et le français. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton parcours linguistique et géographique?
Alors, d'abord, merci, Laura, pour m'avoir ici, dans Quoi de neuf. Ça fait très longtemps que je ne parle pas français, donc on va voir qu'est-ce que je vais faire.
C'est bien commencé, c'est bien parti.
OK. D'accord, merci. Mon parcours linguistique et géographique. Alors, disons que j'ai un rapport assez particulier avec les langues et surtout les accents, parce que j'ai une facilité d'apprendre langues et accents, et les accents surtout, je les perds et je les prends très facilement. Alors, je suis née à Rome, mais j'ai vécu toute mon adolescence, enfance et adolescence, dans une petite ville dans le nord d'Italie, en Reggio Emilia, qui est située dans la région Emilia-Romagna, où il y a un accent très précis qu'on reconnaît tout de suite. Et donc, j'avais cet accent, il était très très marqué. Et après, mes parents, quand j'avais 16-17 ans, ils ont déménagé dans l'Italie de l'Ouest, donc à côté de Nice. Et donc là, j'ai complètement perdu mon accent. Là, quand je parle italien, mon italien, il est totalement neutre. Les gens souvent me demandent « Mais tu viens d'où ?» Parce que je ne comprends pas mon accent. Il n'y a pas des indications. Il est centre-nord, mais bon. Et j'ai vécu en Angleterre par pas mal d'années. Mais avant d'aller en Angleterre, j'ai vécu pas mal d'années en France. Donc, c'est pour ça que je parle le français. J'ai fait une année j'ai fait ma troisième année, la licence à l'université Paul Valéry de Montpellier, dans le projet Erasmus.
Ah, je savais pas.
Et le français, c'était un peu la langue du cœur, parce que mon partenaire de l'époque était français, donc j'habitais en France, on avait une maison, et donc le français, voilà, c'est pour ça qu'il est devenu part de moi. Mais bon, après, les histoires terminent, mais les langues, elles restent. Et donc, j'y suis allée à... Et les accents aussi. Là, mon français, je ne sais pas quel accent j'ai. À l'époque, c'était un accent du sud. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais bon, après, je suis allée en Angleterre. Et quand je suis arrivée en Angleterre, tout le monde croyait que j'étais française. Personne ne me croyait comme je disais que j'étais italienne. Parce que mon accent, quand je parlais anglais avec un très, très fort accent français. Et voilà, donc personne ne me croyait. Et j'ai commencé à parler mieux l'anglais, et là, voilà, c'est l'anglais, ma langue. Donc, tu vois, c'est tout mélangé. Là, je vis à Toronto, hein. Mais je vois que le français, là, il est en train un peu de retourner, parce que tout est bilingue. Donc, j'ai remarqué que quand je lis, par exemple, les instructions pour cuisiner les trucs, c'est en français que je lis, naturellement, pas en anglais. Donc, c'est bizarre. Donc, voilà, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, et les langues, voilà, sont parties de moi.
Et tu sais, hein, on s'attendait pas forcément à parler de ça, mais la première entrevue que j'ai fait cette saison, c'était avec une sociolinguiste du Nouveau-Brunswick, professeure émérite Annette Boudreau, qui nous parlait d'un concept bien intéressant, qui s'appelle l'insécurité linguistique, c'est-à-dire que au niveau de son accent, au niveau des mots qu'on maîtrise ou maîtrise pas, la façon dont nous sommes lu ou compris par nos interlocuteurs, tout ça a un effet sur nous. Toi qui as tant voyagé et tant vécu dans différentes déjà régions d'Italie ou de différents pays, l'Angleterre, la France aussi, as-tu une relation de confort ou de déconfort avec la façon dont lorsque tu parles italien, lorsque tu parles français, tu ressens des effets de comment les gens te conçoivent?
Oui, absolument. En fait, en France, j'étais pas, quand je parlais, les gens native speaker, ils comprenaient tout de suite que j'étais pas native speaker, et donc j'étais pas vue comme française. En Angleterre, pareil. Quand je parle anglais au dehors de l'Angleterre, les gens me disent waouh, ton accent est so English, British English. Mais bon, en anglais, ils diraient jamais ça de moi, parce que dès que j'ouvre ma bouche, même quand je sais hello, ils savent déjà que je suis pas anglaise. Et en Italie aussi, les gens me demandent, mais tu viens d'où? Parce que j'arrive pas à te poner une étiquette sur toi. Donc ça, c'est un constant de ma vie, que les gens veulent mettre un label, mais ils n'arrivent pas. Et donc, ça crée toujours beaucoup de questions, souvent pas très...
délicates, des questions indélicates, ouais.
Oui, parce que c'est toujours des questions à réciproquer. Hein? Les gens me posent des questions en Italie, par exemple, « Oh, mais tu viens d'où? Comment ça se fait que tu parles bien l'italien? » Mais je demande pas le même. Hein? Quand je connais quelqu'un, je demande pas pourquoi tu parles italien ou tu viens d'où vraiment. Mais je reçois toujours ces questions par un nombre de facteurs, non? Je suis pas blanc, et donc en Italie, pour être italien, tu dois être blanche, indirectement, et faire un facteur linguistique, j'ai un accent, mais tu sais pas d'où je viens, parce que l'accent n'est pas très clair. Donc oui, ça m'est... C'est parti de moi, je pense. Des fois, ça me dérange. D'autres fois, je vois que c'est une curiosité de me connaître mieux. Donc voilà, ça dépend des situations et de l'intention derrière la question.
Oui. Et puis, c'est davantage, puisque tu es sociologue, moi aussi, il y a une part affective, hein, c'est ça, on vit ces choses-là, linguistiques et raciales aussi, mais ça rentre souvent dans nos analyses, hein, dans nos analyses sociologiques, dans les questions qu'on se pose, qu'on se fait poser et qu'on aborde dans notre travail. Alors, faisons le pont avec ton travail, mais commençons déjà. J'aimerais que tu nous parles de tes influences intellectuelles et culturelles aussi sur ta personne.
Alors, disons que j'ai commencé en étudiant l'anthropologie à Rome. J'ai passé, quand j'avais 18 ans, comme je te disais, je suis allée en Angleterre seulement pour 6 mois, mais c'était une expérience qui m'a changé un peu la vie, je dirais, parce que j'ai vu un monde que je ne connaissais pas. Je venais d'une Italie blanche où je ne me voyais pas représentée ou considérée comme italienne. Et après, je vais à Londres, dans cette multicultural, global cité, ville, et donc...
Oui, métropole, hein? Immense, immense ville. Hein?
Si. Et donc ça vraiment a changé beaucoup les perspectives que je pouvais avoir sur moi, sur ma vie. Donc je suis rentrée en Italie, j'ai commencé à étudier l'anthropologie, donc j'ai fait ça pour 5 ans. Et à la fin de mes 5 ans, je me suis rendu compte que j'avais un intérêt sur quelque chose auquel je n'arrivais pas à mettre un nom. Donc, c'était des disciplines qu'en Italie, on n'étudiait pas, mais qui m'intéressaient. Et c'était les études de genre, gender studies et critical race theories. Sur les études critiques sur l'idée des races. Et donc, voilà, je suis allée en Angleterre. Je suis allée en Angleterre pour faire mon master. Et je pensais de travailler dans le international development, mais bon, là j'ai compris que ça c'est un peu problématique pour moi, comment elle était conçue, mais j'ai vraiment bien aimé la phase des recherches. Et donc j'ai, comme ça, sans l'avoir prévu, j'ai commencé un doctorat des recherches à l'université de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Et là, j'ai commencé à étudier l'histoire du colonialisme, une histoire qui fait partie aussi de ma famille, parce que ma famille s'est originée à cette période-là, au début des 1900. Et je me suis rendu compte que je ne savais rien de cette histoire, parce que à l'école, en Italie, on n'étudie pas ça. Si tu as 3 lignes dans une page dans laquelle on te dit que l'Italie, c'était pas brutal comme la France ou l'Angleterre, que l'Italie a amené la civilisation en Afrique, que les Italiens, ils ont construit des routes, des hôpitaux, ça, c'est déjà beaucoup.
C'est un discours très, très, très courant en Italie.
Oui, et il y a toujours cette idée très romantisée. Et donc, il y a ces visions italien, en Italie, on dit italiani brava gente, italien de bonnes personnes, de gens de cœur, en Afrique. Et j'étudiais ça pour un an, et donc j'ai commencé à apprendre tous les crimes, toute la violence de l'entreprise coloniale en Afrique par les Italiens. Et après, je suis partie pour faire ma recherche sur le terrain. Et donc, j'étais intéressée à interviewer des femmes nées pendant la période fasciste, coloniale et soi-disant post-coloniale, des pères blancs fascistes et des mères africaines. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire être noir, être métisse, être italien dans ces périodes-là? Et là, je devais trouver des méthodologies qui m'aidaient à analyser toutes ces données que je découvrais. Et c'est là que j'ai découvert le féminisme noir, les épistémologies du féminisme noir. Et ça, vraiment, ça m'a formée, pas seulement comme chercheuse, mais aussi comme personne, comme féministe, comme femme noire italienne, parce que ça m'a donné vraiment une trajectoire, pas seulement au niveau des méthodes, mais aussi au niveau des pratiques et des vies. Donc, je dirais que les féministes noires, afro-américaines, afro-britanniques, pour moi, c'était une grosse influence. Par exemple, Patricia Hill Collins, qui a écrit The Black Feminist Thought, Bell Hooks, voilà, ces femmes-là.
Oui, et puis tu as donc de elle, t'en donnais aussi un langage, mais une ontologie, hein, c'est ça, toute une conception de tête de vie et de recherche, hein, qui a beaucoup joué sur l'orientation de tes choix, finalement, méthodologiques et théoriques, comme tu dis.
Oui, oui, parce qu'ils m'ont aussi enseigné comment voir le procès de recherche. C'est-à-dire que comme chercheuse, chercheur, nous avons beaucoup de pouvoir quand nous conduisons la recherche. On n'est pas des sujets neutres, tout à fait. Je pense que c'est très important de se positionner dans la recherche, de faire connaître aux lecteurs, aux lectrices, qui tu es dans ce procès, quel est ton impact dans la recherche, parce que les questions que nous posons sont filtrées par nos expériences. Et donc, dans le terrain, nous amenons nous-mêmes, nos corps, nos expériences, les connaissances avec lesquelles on a grandi. Et tout ça est parti du procès de recherche. Et même quand nous écrivons des articles, des livres, nous filtrons ce que nous avons entendu. C'est tout à fait... c'est pas notre du tout, au contraire, c'est situated knowledge, la connaissance située, ça c'est très important, la positionnalité, et naturellement la clé intersectionnelle pour moi était aussi très importante.
Tu as dit quelque chose tout à l'heure et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Tu parlais du système éducatif italien, des lacunes dans le système, qui est visible, qui n'est pas visible, quelles sont les relations de pouvoir qu'on évoque ou qu'on n'évoque pas. Tu as parlé de discussions que tu avais lorsque tu faisais ton terrain en Afrique. Moi, je serais curieuse à savoir, bon, on se fait éduquer à l'école, mais on apprend à la maison. Il y a des discussions qui nous forment, des inclusions, des exclusions, des visibilités, des invisibilités dans sa propre famille. Et il y a les conversations qu'on a, qu'on n'a pas au sein de la famille. Tu pourrais nous parler un peu de les discussions de famille au niveau du colonialisme italien. Ça tournait autour de quoi?
Je dois dire... tu sais, j'ai compris seulement... quand j'étais adulte, qui avait un degré de trauma intergénérationnel qui était transmis et pour lequel il y avait beaucoup de silences. Donc, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai demandé par exemple à ma mère de me raconter de son enfance. Elle était toujours un peu réticente. Je voyais qu'elle n'était pas à l'aise. Et voilà. Et donc, j'ai compris en étudiant cette histoire, en allant en Érythrée, en voyant ce qu'elle voyait, qu'il y avait beaucoup des... C'était pas évident. C'était pas évident être des enfants mixtes, des enfants métis, parce que on était... Le corps était déjà les signes visibles du fait qu'on avait un père blanc, un père italien. Dans le cas de ma mère, c'était pas fasciste, c'était un communiste qui s'est enfoui de l'Italie fasciste. Mais bon, ses enfants étaient un peu abusés, vus comme les enfants du traiteur, comme les enfants spy.
Espions,
voilà. Ils étaient vus des fois comme des espions. Donc, l'enfance n'était pas facile, et d'un côté noir, parce que les gens locaux, les Érythréens, avaient des préjugés souvent. Et les Italiennes, ils ne les voyaient pas comme des blancs, naturellement, parce qu'ils n'étaient pas blancs, ils étaient métis, donc ils appartenaient à une supposée race inférieure. Et donc, pas seulement dans le cas de ma mère, mais aussi les gens que j'interviewais, j'ai vu la difficulté qu'il y avait à avoir cette identité. Et après, ces gens, sont partis dans les années 60, 70, quand il y avait la guerre quand il commence vraiment une situation de violence entre Érythrée et Éthiopie, beaucoup, les Italiens doivent partir et aussi les gens qui étaient métis doivent partir. Et ils arrivent en Italie en pensant, je vais finalement dans mon autre pays, le pays dans lequel je serai accepté parce que je suis italien. Mais ils ne se rendent pas compte qu'elles sont noires. Et donc, ce que les Italiens voient, c'est pas leur nom de famille, leur capacité linguistique, leur capital culturel, parce que elles étudiaient seulement l'histoire italienne. Elles ne savaient rien de l'histoire locale. Et bon, elles arrivent en Italie et ils sont abusés dans les rues, appelés la N-word, insultés à niveau racial, discriminés et traités vraiment comme des sous-personnes. Et là, leur identité est un petit peu crumble.
C'est effondré, oui.
Mm-hmm, totalement, totalement. Et donc, elles doivent recommencer. Elles doivent recommencer à comprendre leur identité. Qui sont vraiment ces gens qui personne n'arrive pas. Parce que quand elles arrivent en Italie dans les années 60, le colonialisme n'existe plus, a été déjà oublié. Et donc, les gens sont choqués de voir des Noirs qui parlent italien et posent beaucoup de questions. Mais comment ça se fait que tu viens de l'Afrique et tu parles italien? C'est où l'Érythrée? C'est où la Somalie? Et donc, ça, pour eux, c'est une source de trauma parce qu'elles sont... Elle n'existe pas dans l'imaginaire collectif.
Et là, tu es en train de nous parler de ton travail de doctorat, hein, du contenu de ton terrain, les pays en question, l'Italie, la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie. Je vais nous faire revenir un peu en arrière et dire aux auditeurs, aux auditrices, d'abord, tu es nouvellement embauchée à l'Université de Toronto, donc nouvelle professoresse, n'est-ce pas? Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans l'Alliance française lors d'un événement. Et tu as présenté un discours très intéressant qui s'appelait « You were the shame of race ». Alors, les mots-clés associés avec ton poste sont les études raciales, les études culturelles, les diasporas, les études italiennes. Et on vient de dire le mot « métis » ou « métissé »,« métissage » à de nombreuses reprises déjà. Est-ce que tu pourrais nous définir ces termes, parler de ces ancrages afin d'illustrer en quoi consistent tes idées et ton programme de recherche?
Oui, alors là, la position que j'ai gagnée, assistant professor à l'Université de Toronto, c'était une nouvelle position. Je pense la première en Amérique du Nord, en ce genre, parce que ils ont mis ensemble les études d'italien, Italian Studies, qui est conçue comme des études littéraires d'une certaine époque. Donc, il y a beaucoup de cours sur Dante, sur la Renaissance, mais on va jusqu'à le 19e siècle, mais normalement, on s'arrête là, disons. Et donc, tu sais, après ce qui s'est passé le 25 mai 2020, la mort de George Floyd, je pense que ça a tout bougé. Il y avait une sorte de tsunami qui a tout mis en question sur certains niveaux. Donc aussi la question de la race. Quand on dit race, naturellement, on ne se réfère pas à la race biologique. Les races au pluriel n'existent pas, mais on se réfère à un concept, un mot qui a été inventé, donc pas vrai, qui n'a pas des bases scientifiques du tout, mais qui a eu des répercussions pour des siècles, qui toujours a des répercussions sur les personnes qui sont catégorisées selon cette idée des races. Et donc, en Europe et en Italie, c'est difficile de parler de ça. En France, très difficile de parler de ça, parce que on ne veut pas voir ça. Et en fait, cette approche s'appelle « colorblind ». On est tous le même, on est tous égaux, il n'y a pas de diversité, on est tout, dans le cas de la France, on est tout français. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire être français? Qui est le vrai français? On peut dire que c'est quelqu'un qui a certaines traits physiques, qui a une certaine religion, qui a une certaine culture, qui parle une certaine langue. Donc, pas tout le monde est français de la même manière. Et ça, c'est le même en Italie. Qu'est-ce que ça veut dire être italienne? Pourquoi quand je dis que je suis italienne, quelqu'un me peut demander tranquillement, mais tu viens d'où vraiment? Oh, tu ne ressembles pas italienne. Pourquoi tu parles italienne? Voilà. Si j'étais blanche, je ne recevrais pas ces questions. Et pourquoi? Parce que, voilà, il y a une idée raciale de l'identité, de la citoyenneté. Et donc, c'est ça qu'on cherche de faire quand on parle des races. C'est des études critiques de la race. Donc, ça, c'est très important de dire. De la race, mais aussi mixed race, qu'on ne peut pas traduire en français ou en italien comme race mixte, parce que ça, c'est vraiment faire référence à ces races qui on veut pas, qui n'existent pas, mais c'est une construction sociale qui a des effets réels. Et donc, les études des langues, des civilisations italiennes, se sont toujours posées très loin de ça. Donc, si tu veux étudier Dante, la Renaissance, tu vas à Italian Studies. Si tu veux étudier ces trucs-là, alors tu dois aller plutôt dans African Studies. Et là, je pense que l'Université de Toronto a fait ses révolutionnaires, hein, dans certains côtés, gestes de créer une position explicitement, on met ensemble Italian Studies and Race. Ça c'est très unique, je pense. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'introduis des cours qui font référence à un terrain disciplinaire qui s'appelle Black Italia, Black Italy. L'Italie est aussi noire, est aussi métisse, est aussi racialisée. Il y a beaucoup des Italiens qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne parlent seulement l'italien. Et il y a des Italies. Il n'y a pas en Italie. Il y a des Italies qui vivent ensemble. Et voilà, donc je parle des productions culturelles faites par des Italiens de descendance africaine. Je parle de l'Italie dans les Méditerranées noires, le Black Mediterranean. Je parle d'histoire et counter-histories, contre-histoire en Italie et dans les Méditerranéens. Donc, voilà, c'est toute une série de nouveaux introductions disciplinaires qui font partie de l'Italie et qui, justement, devraient être dans ce qui s'appelle Italian Studies.
Je me souviens, il y a quelques années, nous avons fait, avec un collègue à toi, Alberto Zambenedetti, on avait fait un lancement de film, parce que lui, il est prof, il est collègue, études italiennes, études de cinéma italien. Ils avaient déjà, il y a plusieurs années, l'idée de créer le poste que tu occupes. Alors, félicitations. En jour d'aujourd'hui, mais c'est peut-être que le terrain se préparait déjà il y a plusieurs années. C'était devant un public très attentif qui n'avait jamais, comme tu dis, jamais vu une telle Italie. Alors, vraiment du nouveau pour le public, pour les étudiants et peut-être d'ailleurs pour les collègues.
Oui, et je dois dire, les étudiants, ils sont très jeunes, donc ils savent déjà tout ça. Ils avaient vraiment soif de ça, parce que c'est quelque chose qu'ils voient dans les social media, parce que les social media sont, ils permettent au beaucoup de gens d'exprimer des sortes d'épistémologies alternatives, des épistémologies qu'on ne trouve pas à l'université. Des fois, les social media nous aident pour ça. On peut se renseigner, on peut s'éduquer sur tout ça. Mais c'est vrai qu'à niveau universitaire, à niveau curriculaire, il n'y avait pas. Et donc, je vois que les étudiants sont vraiment excités, engagés dans ces cours. Ils savent déjà des choses, parce que s'ils étudient l'italien, ils sont aussi intéressés à la culture italienne, mais vraiment, ils sont très... souvent, ils me remercient pour ce que je fais dans les classes, et tu vois, c'est vraiment touchant, mais important, et une mission pour moi de partager mes connaissances dans les classes, mais aussi au dehors. en dehors des classes, parce que on sait que l'ambiance universitaire est une ambiance élitiste. Pas tout le monde peut se permettre d'aller à la fac, et surtout quand tu vas j'enseignais à NYU, New York University. Avant de ça, une université privée à Florence, oui. C'est une université privée, donc les étudiants que j'avais sont très très différents des étudiants que j'ai ici à Toronto. Ce sont des gens qui vivent ici, qui ont leur vie ici. Florence était un study away campus, so, les gens venaient 6 mois, elles partaient, et après il y avait un autre corps qui arrivait. Donc là c'est différent, là les gens vivent ici, sont radiqués ici, mais comme tu sais, Toronto, 1 personne sur 2 n'est pas de Toronto. Et donc il y a une dimension diasporique très très grande.
Et j'avoue, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu t'inviter. Je te remercie de nous avoir accordé ce temps. D'abord pour t'accueillir en Ontario, puisque tu es nouvellement installé depuis juillet, je pense. T'introduire à nos écouteurs qui sont d'univers différents et des élèves aussi à la faculté d'éducation et d'ailleurs, mais aussi pour que ces derniers apprennent sur leurs concitoyens, parce que il y a une, comme tu viens de dire, il y a une forte population diasporique de la Corne d'Afrique en particulier, et ton travail et cette entrevue va permettre aussi aux concitoyens de ceux et celles de la Corne d'Afrique d'apprendre beaucoup sur leur parcours migratoire et leurs compétences linguistiques, culturelles, les origines de ces Ontariens qui sont de souche ailleurs. Donc, je te remercie d'avoir accepté. Revenons à tes salles de cours. Et puisque tu es nouvellement installé, je trouve que c'est un moment propice pour parler de ce que je voudrais nous mener à parler. Bon, dans le Canada anglophone, les discours sur les sujets que tu abordes dans tes travaux sont marqués par la société américaine et ses institutions sociales, les médias, ainsi de suite. Dans le Canada francophone, en revanche, les discours sur ces mêmes sujets sont influencés par la société française et ses institutions. Et ton parcours linguistique et géographique, ainsi que les influences intellectuelles et culturelles que tu viens de nous exposer, te font voir différemment et au-delà de ces sociétés et les discours qui y sont produits. Alors, quels sont les constats que tu fais à ce sujet? Quelles retombées sur les élèves et tes salles de cours torontoises?
Oui, je pense que ça, c'est un point très important, parce que c'est vrai que quand on parle d'études critiques de la race, procédés, racialisation, etc., discrimination, avec une référence à la blackness, c'est toujours les États-Unis le modèle dominant. C'est vrai que les gens, les activistes noirs, les intellectuels noirs, les historiens noirs nous ont donné beaucoup et nous ont aidés à former la noiresse, la blackness au-delà des États-Unis, mais après on a des histoires différentes, donc ça c'est important. Stuart Hall, c'est le père des études culturelles, et il le disait clairement: race is a floating signifier. Donc la race est un signifier qui bouge dans l'air et se développe de façon différente, péculière. Donc on peut pas parler des racismes utilisant les paradigmes des États-Unis, en Italie, ou en France, ou en Europe, parce que ça marche pas, c'est complètement différent. Et c'est vrai que des fois, il y a la tendance à faire ça, à utiliser tous ces termes américains sans les traduire, pas seulement au niveau de grammaire, mais au niveau culturel en Italie, en Europe. Donc, comme je disais tout à l'heure, en Europe, on ne peut même pas dire le mot race. En français, il y a, je me rappelle, cette expression taras, qui, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est utilisé d'une façon très, les gens, quand on dit le mot race, les gens sont un peu horrifiés, parce qu'ils pensent à l'extermination des millions de personnes sur des idées basées sur l'idée des races, et c'est difficile.
Oui, je pense que d'ailleurs, c'est en Allemagne, en France, où au niveau juridique, c'est des exclusions, hein, c'est ça, c'est un mot qui a été banni de la Constitution. Et voilà. Mais, et toi, par contre, tu argumentes en faveur de centrer la race comme terrain d'étude et comme piste de réforme.
Oui, parce que je pense que enlever les mots n'enlève pas le problème. Donc, comment on peut parler d'antiracisme si on n'a pas le mot race là? Race, comme j'ai dit, on peut le mettre entre guillemets, on peut faire comprendre que c'est toujours un mot qui n'existe. La race n'existe pas, on le sait, on le répète. C'est une invention culturelle, sociale, qui a eu des répercussions économiques. Parce que c'est pas que le racisme existe, pourquoi on a inventé la race? Il y avait du racisme et on a inventé la race pour soutenir ce système d'exploitation des gens, des ressources, des terrains, en utilisant ce mot. Donc, pour moi, c'est un peu hypocrite de l'enlever, de le mettre, on va prohibir le mot race dans la Constitution, mais après, les gens sont racialisés tous les jours de leur vie. Et alors, comment on parle de ça si tu enlèves le mot, si tu enlèves la possibilité de monitorer, de surveiller, de comprendre le racisme, comment il se développe. En Italie, par exemple, on ne peut pas prendre des données de niveau ethnique. On ne peut pas demander aux personnes qu'est-ce que tu es à niveau ethnique, parce que c'est vu comme quelque chose de raciste. Donc, dans les recensements, au Canada, États-Unis, Angleterre, par exemple, tu as beaucoup de possibilités. Tu pourrais être blanc, I, noir, E. Il y a beaucoup de possibilités pour comprendre la démographie. En Italie, il n'y a pas de ça. Il n'y a absolument pas de questions qui font référence à ça. On parle seulement des citoyennetés, parce que on devient citoyenne à la naissance si on a du sang italien. Et c'est ça. Mais ça, on sait très bien que, par exemple, que le bullisme raciste fait sur des bases raciales, il est très prominent. Mais on ne peut pas le monitorer parce que on ne sait pas qui le subit, qui le fait, pour quelle raison. Donc je pense qu'enlever les mots, c'est pas résoudre le problème tout à fait, c'est vraiment il ne nous permet pas d'investiguer le problème plus à fond.
Et c'est un bon pont pour que tu nous parles de tes interventions et de tes activités de militante. Tu participes dans les débats et des actions antiracistes en Italie par le biais d'interviews, par le biais de tes traductions, de tes écrits en anglais et en italien, en français peut-être. Et donc, tu es l'auteur de plusieurs écrits sur les questions de la production des connaissances racialisées du discours politique sur l'immigration en Italie. Alors, quels sont les enjeux et de quel corps on parle? Et je trouverais ça intéressant qu'on puisse parler du mouvement Ius Soli, en Italie, dont tu fais partie, parce que c'est quand même une grande différence entre ce qui se pratique, ce qui se fait au Canada et ce qui se fait en Italie. Comment, autrement dit, on peut accéder à la citoyenneté?
Oui, ça c'est quelque chose de très important. La citoyenneté, l'accès à la citoyenneté en Italie, ça s'obtient iure sanguinis. par le sang. Hein? Donc, si tu es né en Italie et tu as des parents, des grands-parents, des antennas qui étaient italiens, et tu peux démontrer ça, tu peux devenir italien. Donc, c'est pas où tu es né. Tu peux être né au nord, mais si tu as quelqu'un d'italien, tu es italienne automatiquement. Par contre, si tu es né en Italie, mais tu n'as pas du sang italien, tu es un étranger à niveau de loi. Donc, tu as une visa que tu dois renouveler jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand tu as 18 ans, on a seulement 12 mois, un an, pour demander la citoyenneté. C'est pas garanti. L'application, la demande, elle est très compliquée, bureaucratique, longue et chère. Et donc, tu fais la demande quand tu as 18 ans, mais en théorie, tu devrais recevoir une réponse après 4 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire n'être pas italien? En Italie et en Europe, ça veut dire que tu ne peux pas bouger librement dans le Schengen Space, dans l'espace de Schengen. Donc, tu ne peux pas aller tranquillement en France ou en Angleterre, non, pas l'Angleterre maintenant, mais tu ne peux pas aller en France, en Allemagne avec ton ID card parce qu'elle n'est pas valable.
Oui, ce qui est conséquent pour une personne immigrante, vu qu'elle a sûrement de la famille ou peut-être un travail dans un autre pays ou un travail saisonnier, par exemple, voilà.
Oui, oui, et si t'as pas un passeport européen, c'est pratiquement impossible d'avoir un travail en Italie, d'arriver en Italie sans un travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit ce qu'on voit dans la Méditerranée, parce que c'est impossible d'arriver dans sa forteresse Europe. Mais c'est intéressant de voir en ce jour-là, tu sais, avec la guerre, l'invasion russe en Ukraine, et tous les gens qui doivent s'échapper de l'Ukraine, ben c'est étonnant de voir comme ces barrières, ces restrictions, si on veut, on peut les enlever. Et on peut voir qu'il y a des réfugiés des séries A et des réfugiés des séries B. Et le facteur qui fait la différence, c'est la couleur de ta peau. Et donc, on va à nouveau à l'idée des races. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les gens qui vivent ces expériences qui sont en train de le dire. Que c'était noir, t'es au fond de la queue, même si t'es arrivé il y a 3 jours. Et s'il y a de la solidarité pour ces réfugiés blancs comme nous, on a entendu beaucoup de gens dire ça dans les médias.
Et pour ceux qui pourraient penser c'est pas le cas, ou c'est nouveau, dans le contexte du conflit actuel entre Russie et l'Ukraine, il y a tout un parcours, tout un bagage historique qui atteste et prouve le contraire, je pense. Mm-hmm. Tu pourrais nous parler du projet The Black Mediterranean, la Méditerranée noire. De quoi il consiste?
Oui, alors ce bouquin, c'est le résultat, j'ai à peu près de 7 ans de travail pour le réaliser. On est un collectif des chercheurs, des scholars qui viennent de terrains différents. Il y a des human geographers, des sociologues, personnes qui étudient l'histoire de l'art. Donc, c'est vraiment varié. Mais on a tout contribué à cette idée du Black Mediterranean pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça, soi-disant, refugee crisis. On part toujours d'une crise, d'une invasion. Mais finalement, si on regarde les chiffres, ben, il n'y a pas d'invasion du tout. Et ça, c'est suffisant de regarder les statistiques. Donc, c'est quoi vraiment? C'est le fait de voir des corps essentiellement noir qui traverse la mer pour arriver dans la forteresse Europe. Et on veut pas ça. On veut pas ça. Et donc, on a des lois très restrictives. On a une police qui, comme Frontex, qui reçoit beaucoup de sous pour contrôler les qui rentrent et qui ne rentrent pas. On a des gens laissés dans la mer, des fois pendant des jours, des fois pendant des semaines. Donc il y a vraiment, c'est, mais comme on dit dans les bouquins, ça c'est pas un état d'exception, ça c'est une répétition de ce qui s'est passé pendant des siècles. Donc il y a sûrement des connexions avec l'Atlantique noir, The Black Atlantic, bouquin écrit par Paul Gilroy, mais aussi on a vu des différences. Et dans mon cas, j'ai utilisé ces nouveaux instruments analytiques pour... je vois le Black Mediterranean comme un site, un réservoir des contre-histoires, sont des narratifs, des contre-histoires diasporiques. Donc c'est un site géographique marqué par le colonialisme européen en Afrique, mais c'est aussi un site de production de contre-histoires. Donc pour moi c'est important de connaître les histoires produites dans ces bassins et de les faire connaître, parce que voilà, ce sont des histoires qui peuvent faire un peu de pression contre ces visions dominantes d'histoire. Par exemple, la présence noire en Italie est vue comme quelque chose de récent, mais c'est pas du tout le cas. Si on pense au premier duc de Florence, Alessandro de' Medici, il était un homme métis et il était l'homme le plus puissant de son époque.
Prospère.
Et puissant, il avait beaucoup de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui font partie de l'histoire italienne, comme l'histoire que j'ai racontée quand ils sont rencontrés, Isabella Marincola et son frère Giorgio Marincola, partisan noir qui meurt à l'âge de 22 ans pour libérer l'Italie du régime nazi-fasciste. Et on ne sait pas de cette histoire. Donc pour moi, c'est vraiment le Black Mediterranean, ça nous aide à faire entrer dans la production du domaine, du savoir, ces contre-histoires.
Qui nous mène à parler de ta monographie, et on va peut-être pouvoir finir sur ce beau projet, dans ta monographie sur les appartenances identitaires de femmes noires métisses en Italie coloniale et postcoloniale, tirée donc de ta thèse doctorale. Et tu viens de dire que lors de la conférence du 8 mars, tu as fait tes conférences en nous racontant l'histoire vécue, l'histoire de vie de personnes métisses. Hein? Alors, ton livre éventuel sera destiné à quel public? J'imagine que c'est au pluriel. Et quel sera son contenu et la façon dont tu vas l'écrire? Comme tu te dis conteuse, n'est-ce pas? Tu l'as dit et tu nous as fait une très belle présentation tout en racontant des histoires de vie. Tu pourrais nous parler de ce que tu envisages, ce qui nous attend finalement?
Oh, wow, bonne question. Je voudrais le savoir aussi. Non, mais
il faut dire c'est un travail en cours parce qu'on fait une thèse, hein. C'est dans un certain contexte, on travaille avec des scientifiques, avec un comité de pairs, avec un directeur de thèse et tout ça. Mais là,
je dois le transformer dans un bouquin. Et c'est c'est intéressant, c'est excitant, c'est difficile, naturellement au niveau intellectuel, mais surtout parce que je veux le faire d'une façon qui me représente et représente le style que j'ai, ce style narratif, de conte. Je voudrais que les histoires puissent parler pour elles-mêmes. Mais, comme je dis, je suis là, c'est moi qui décide l'histoire, comment elle est présentée au public. Donc, c'est aussi ma positionnalité là-bas qui va être très important. Mais j'ai eu la chance d'enregistrer des histoires vraiment puissantes, uniques, parce que les gens qui me l'ont raconté, la plupart sont morts, parce qu'elles étaient déjà des femmes très anciennes à l'époque. La témoin la plus ancienne que j'ai interviewée, elle était née en 1916. Donc, elle m'a raconté une histoire incroyable. Il y a des gens qui sont nés dans les années de la loi raciale, des gens qui ont été mis dans les boarding schools, comme ici au Canada, parce qu'ils étaient métisses et donc elles devaient devenir italiennes. Et là, il y avait les missionnaires catholiques qui avaient cette mission. Ce qui s'est passé dedans, à l'intérieur de cette école, on ne sait pas beaucoup. Mais j'étais très curieuse de savoir ça, parce que, par exemple, ma grand-mère était une de ses enfants. Elle a grandi dans un boarding school. Et je me rappelle les histoires qu'elle m'a racontées quand j'étais petite, et elles m'ont un peu traumatisée, et elles sont restées à moi. Et donc, je voulais partir de cette histoire pour découvrir un phénomène plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elles étaient mises là-dedans. C'était quoi la mission coloniale? Et donc, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous faire, comme tu es conteuse, tu pourrais faire nous donner un avant-goût? Tu pourrais nous donner un exemple d'un parcours? Tu viens de parler d'une femme qui est née en 1916, par exemple.
Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup d'histoires. J'ai parlé d'une histoire très choquante et très forte par une femme, actually, qui était née en 1940. Donc, en 1940, le régime fasciste fait une loi contre les enfants métis, en particulier. C'est-à-dire que le père qui a un enfant métis ou métis ne peut pas le reconnaître par loi, parce qu'il a du sang noir, donc l'enfant est noir. Il ne peut pas être considéré italien. Donc, ces enfants doivent être élevés par leurs parents noirs. Et donc, cette témoine, elle est née là, en 1940. Elle est, pour toute une série de raisons, elle va dans une boarding school, dans un collège, c'est appelé collège, à l'âge de 2 ans. Et elle sort quand elle a à peu près 18 ans. Et voilà ce qu'elle me raconte, c'est une vie faite de cruauté, de punitions physiques incroyables si on parle la langue de la mère. Le facteur linguistique, c'était très important. Donc, dans ce boarding school, on devait parler italien. Il fallait oublier presque la langue maternelle. Et donc, si les enfants étaient... si on entendait quelqu'un parler les langues maternelles, là, il y avait des punitions très fortes. Et donc, elle me raconte d'une copine à elle qui a été battue par une sœur. Et la sœur, pour la punir, elle prend un paire de ciseaux et coupe le début de sa langue. Et ça, c'est incroyable, pas seulement par la violence, le fait que tu prends un paire de ciseaux et tu coupes la langue à quelqu'un, mais à niveau symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment éradiquer la possibilité que cette personne puisse commettre cet acte prohibi à nouveau. Donc, comme la punition, c'était pas seulement une punition, mais aussi un spectacle pour les autres, un message pour les autres. Et comme le corps était utilisé comme un site politique sur lequel imprimer le message colonial. Donc, voilà, il y a des histoires qui sont très difficiles à écouter, à lire, à écrire. Mais je pense que c'est important de les faire connaître parce que les personnes qui me l'ont raconté aussi veulent que ces histoires soient connues.
Ce qui me semble incroyable aussi dans tes histoires, comme moi, dans la grande famille, il y a Italien, il y a Italien-Africain aussi, on entend toujours, dans le bon sens, la période de colonisation italienne. On a tendance, à, comme tu as dit au début, de faire de cette période, bon, je ne sais pas, d'idées romantiques ou c'est très 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 peu souvent que au sein des familles au jour le jour on entend ces histoires dont tu nous parles, que tu as captées dans ta recherche. Donc ce que je souhaite vivement, que tu arrives à parler au jeu, que tu parviens à écrire ce livre à partir de tes connaissances de personnes comme membre d'une famille élargie, et que tu puisses aussi nous raconter le vécu de bon nombre de femmes qui ont vécu des choses, qui ont été résilientes, qui ont vécu des traumatismes, qui sont nées au XXe siècle, qui vont nous apprendre beaucoup, beaucoup sur les effets du colonialisme italien en Somalie, en Érythrée et en Éthiopie. Et c'est bien parti, oui.
Mais aussi, tu sais, pour moi, c'est très important, ça je le dis à chaque fois, de se rappeler que à chaque fois, il y a de l'oppression, il y a toujours de la résistance. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas voir ces femmes comme des victimes. Seulement des victimes. Elles ont un pouvoir décisionnel et ils l'ont utilisé. Ils ont inventé des stratégies pour faire face à cette violence qu'ils vivaient tous les jours. Et ça, c'est important de le reconnaître, je pense, parce que une des préoccupations que j'ai, c'est que quand on va lire des histoires comme ça, on va instantanément victimiser la personne.
Ah oui, c'est le risque. C'est le risque si tu écris pas ta monographie d'une certaine manière. Tu as raison, hein, comme auteur, c'est ça. Tu vas faire des choix en conséquence pour ne pas que les femmes soient vues et comprises comme victimes.
Exactement. Tu sais, il y a cette pornographie de la douleur qui vraiment je veux éviter parce que mais je pense, tu vois, et ce que Balux nous a enseigné, que on peut partir d'une position de douleur et de souffrance pour produire une nouvelle théorie féministe, une théorie et pratique féministe, pratique révolutionnaire qui nous aide à se soigner de ces douleurs, à donner des mots de soignance et des pouvoirs. Donc, c'est ce que j'espère de faire.
Nous attendons vivement les prochaines publications, la monographie qui est en cours. Déjà, on t'entend remuer les idées quant à la façon de l'écrire, comment te positionner, comment représenter les femmes, par exemple. Et nous attendons vivement tes prochaines publications. Alors, Angelica, grazie, grazie, merci beaucoup, thank you d'avoir pris le temps de nous exposer tes belles idées.
Merci, merci beaucoup.
Buona giornata.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.